proverbe. Ah, ça y est, c'est bon. C'est de nouveau, c'est contre-intuitif, c'est rouge quand ça marche. Alors, je trouve, il y a plein de remarques qui me viennent après votre présentation, qui est très stimulante. Enfin, voilà, je vois que déjà par rapport aux techniques de construction durable, écologique, d'économie d'énergie. En fait, on voyait dans le cas présenté par Sophie, plutôt les habitants sont contraints de s'adapter aux techniques. Là, vous, c'est plutôt vous qui, vous inversez les choses, quoi. C'est les techniques doivent, à mesure du possible, s'adapter aux besoins des habitants et pas l'inverse. Première remarque comme ça, vraiment à chaud. L'autre chose, c'est finalement, on peut vouloir avoir le même souhait de vivre en habitat partagé et pas partager la même vision de comment ce projet doit se réaliser, hein, puisque vous avez évoqué cette scission entre deux groupes qui cherchaient implanter un habitat partagé. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Et en plus, ça fait écho à une question que j'avais envie de poser finalement un peu aux trois. Cette session, elle sera portée à la constitution du collectif. Quelles sont les logiques de constitution des collectifs? Alors, je vais schématiser un peu, mais pour stimuler la discussion, est-ce que... Enfin, voilà, quand vous parliez de Fourier, la logique de constitution des collectifs, c'est en partie la passion. Mais quid quand on n'a pas de passion ni pour les melons, ni pour les pêches, ni... Donc ce collectif, comment il se... Enfin, il s'agrège, mais aussi, qu'est-ce qui se passe quand dans les limites de la constitution du collectif, hein, pour agréger tous sans exclure un peu. Dans le cas que présentait Sophie, le collectif qui était évoqué, c'était la logique de constitution du collectif, c'est un peu la nécessité. Et du coup, il y a des logiques de distinction, de séparation. On ne veut pas voir, on ne veut pas être associé à ceux qui nous ont, de distanciation à ceux qui nous entourent. Et donc dans votre cas, votre troisième cas, est-ce qu'on peut dire que la logique de constitution du collectif, c'est se vivre ensemble, justement, de pouvoir se choisir pour vivre ensemble, de se partager, de partager une même vision de ce qu'on va partager, de ces moments de convivialité, de la limite entre le privé et ce qui va être collectif. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Mais alors, dernier point, quelle est la durabilité de ces collectifs? Parce que en fait, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure avec la présentation de Sophie. De ces habitats qui sont constitués en pensant à des certaines formes d'usage, de pratiques qui ne sont pas mises en œuvre finalement par ceux qui s'y trouvent. Mais finalement, vous construisez votre habitat par rapport à vos besoins. Et demain, si vous partez ou si ce sont d'autres personnes, quelle est la durabilité de ces collectifs? Donc, et dans quelle mesure, finalement, les logiques de construction du collectif peuvent être transmissibles?
Alors, je peux
c'est une vaste question et c'est pour stimuler le débat, j'espère.
Je peux peut-être intervenir sur cette durabilité, hein. Alors, je dirais que ça dépend des groupes. Hein. Je n'ai pas de statistiques pour dire s'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de...
Pardon, il faut s'approcher du micro, en fait.
Je pense qu'il y a beaucoup d'habitats, peut-être, où il y a des distensions, effectivement, qui arrivent au fil du temps et qui s'arrêtent, où les habitants partent et c'est de nouveau habitants carrés. Mais il y en a qui tiennent. Moi, j'ai en tête un habitat dans la Creuse qui existe depuis une quarantaine d'années, qui s'est Faux-la-Montagne, exactement, et qui s'est bâti autour d'une scierie coopérative. Là, ça marche depuis une quarantaine d'années. Ça, c'est des jeunes qui, au départ, ont construit cet habitat et qui sont restés ensemble. Voilà, donc il y a divers exemples comme ça. Mais en général, je pense qu'il faut un projet qui aille pour que ça marche avec l'habitat. Là, il y avait une scierie. Nous, on aura le café des pratiques. Voilà, il faut peut-être quelque chose en plus de l'habitat. Bon, voilà. Si on pense à Fourier, il y a la fameuse manufacture Godin qui s'est construite par la suite, mais c'est autour d'une entreprise également. Donc, voilà. Juste pour ajouter un petit peu, on parle de la transition. Ça me fait penser un petit peu à la démarche de transition. Et au-delà, la démarche de rupture ou de révolution. C'est-à-dire, le premier groupe où j'étais dans Habiter Autrement, qui voulait être absolument dans une coopérative, même bien au-delà, parce qu'à un moment, on avait même parlé d'une sorte de presque de partager nos salaires pour faire un rééquilibre. Ben voilà, pendant 5 ans, il y a plusieurs projets qui ont vu à peine le jour et qui ont très rapidement échoué parce que face à la réalité de la société telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est très difficile de monter des projets comme ça. On voit aussi, même que nous, dans notre projet, par rapport au projet de départ qui était de 16 logements. Dans l'étude de faisabilité, vous avez vu un super bâtiment en H, un peu, qui incorporait le jardin. Bon, on en est venu à un bâtiment de 11 logements avec un seul bâtiment. Donc, voilà, il y a des renoncements aussi à faire en cours de projet.
Oui, sur la durabilité, il y a des expériences sur Paris plus anciennes qui ont des quelques années et se posent des problèmes en fait quand la population vieillit parce qu'au départ on est des familles, on a des espaces communs qui sont animés par les activités des enfants et quand les enfants partent, ben, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces voilà. Alors, nous, on a intégré 2 logements sociaux en se disant que ce serait notre vivier familial, hein, où on aurait toujours ce contact avec les familles et les enfants. Après, est-ce que ça marcherait, est-ce que ça ne marchera pas, on ne sait pas. Ça pose des contraintes importantes pour le groupe parce que les bailleurs sociaux ne participent pas au financement des espaces communs. Et ne peuvent pas attribuer les appartements avant leur construction. Voilà. Non, on n'a pas droit de regard. On a juste la charte que l'on a écrite pour faire en sorte que ça fasse partie des éléments que les locataires devront prendre en compte. Ils acceptent de loger. Voilà, ils doivent signer une charte. Ouais.